3.
Bienvenue à tous sur notre podcast Super Physique. Je suis avec le musclé, le sexy, le fantastique Rudy Koya. Bonjour Rudy.
Et donc tu es Julien le sulfureux, le magnifique.
Oui, et aujourd'hui c'est moi qui présente le podcast, puisque Rudy commence à prendre de l'âge et donc il passe le flambeau.
On va dire ça comme ça.
Voilà, donc bonjour à tous. On va commencer tout de suite avec l'actualité. Donc Rudy, tu avais lancé les t-shirts Super Physique, tu envisageais de lancer les cotons-tiges Super Physique, brosse à dents Super Physique, et maintenant tu vas nous parler des serviettes Super Physique.
Bah en fait d'abord je voulais lancer les strings Super Physique, mais j'ai trouvé aucun modèle qui accepte de se faire prendre en photo cul nu.
Bon, on peut passer une annonce.
Donc toi, hein. Donc toi Julien, tu m'as dit que tu étais prêt à le faire.
Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, je vais réfléchir.
Déjà, il faut bien cambrer pour bien mettre le string en valeur, quoi.
C'est vrai.
Et comme t'as une cambrure naturelle, je me suis dit que... ça pouvait... Bon, sans rire, sinon, les serviettes. Donc, j'avais parlé un petit moment de faire des serviettes Super Physiques, donc j'avais dit que j'avais lancé les devis, etc. Donc, on avait bien eu les devis. Au final, en fait, le logo Super Physique apparaissait beaucoup trop petit sur les serviettes, donc on n'a pas lancé la production. Ça fait maintenant 2 semaines que j'attends un retour... des fabricants pour voir pour mettre le logo en plus gros et je n'ai toujours pas de nouvelles. Donc à ceux qui guettent les serviettes Super Physique pour l'instant, bon bah c'est toujours en chantier. Donc à savoir que si j'ai pas de réponse d'ici vendredi, bah je vais lancer d'autres fabricants quoi. Mais bon c'est toujours pour enfin, ça vous montre bien qu'en fait c'est pas nous qui n'avançons pas, c'est bien les autres parce que là elle devrait déjà être en ma possession.
On peut peut-être préciser qu'il s'agit de serviettes pour s'essuyer, par exemple, à la salle de sport.
Voilà,
non pas de serviettes hygiéniques. Hein.
Ne pas confondre. Je pense que tu vas plus jamais présenter le podcast.
On sait jamais.
Voilà, c'est des serviettes pour s'entraîner, évidemment.
Donc c'était tout pour l'actu, Rudy ?
Bah ouais, parce que cette semaine, il n'y a pas eu grand-chose. Attends, ah si, y a, vite fait, il y a le championnat d'Europe de force qui démarre donc la semaine prochaine. Donc en République tchèque, donc de lundi, donc on sent quoi le 7, du 7 au 11 mai. Donc on pourra le suivre en direct. Donc je mettrai le lien sur la page Facebook de Super Physique. Et donc a priori, je vais aller y faire un tour en tant que super reporter. Je vais encore être le seul à faire un reportage avec des photos et des vidéos. Donc voilà. Donc la semaine prochaine, donc il y a 2 personnes de la team qui participent. Donc il y a Fanny qui passe le mardi matin, qui est à midi en gros. Elle démarre à 11h. Et on a Gilles qui passe le vendredi, pareil, vers 11h.
Ok.
Donc, je mettrai les liens, les photos, de toute façon. Espérons que ce soit mieux organisé que la Coupe de l'Union Européenne que j'avais... où j'avais fait un reportage et qu'on avait vu sur le site. Où c'était vraiment très amateur, malheureusement. Et où on s'était fait virer de l'échauffement. Alors qu'il y avait 3 Pékin dans la salle. Donc, ce coup-ci, je vais essayer de pas aller à l'échauffement. Je vais rester devant, parce que ça va encore m'énerver. Mais donc voilà, donc il y a le championnat d'Europe, donc je mettrai tout sur Facebook avec les liens, etc. pour pouvoir suivre en direct.
Ok, bon, bah écoute, on va passer aux questions. Donc première question diététique, donc a priori pour moi. Quelle stratégie alimentaire adopter lorsqu'on a un taux de cortisol élevé au-dessus des normes sanguines et urinaires ? Donc c'est quelqu'un qui nous a posé cette question sur le forum. Si on a un taux de cortisol élevé au niveau des normes, que ce soit sanguine ou urinaire, c'est qu'il y a un problème de santé. Donc il faut voir avec son médecin, ce qu'on appelle un endocrinologue, qui est spécialisé dans les problèmes hormonaux. En général, ce genre de problème, c'est ce qu'on appelle un syndrome de Cushing. Donc ça se soigne médicalement, c'est pas l'alimentation... qui va pouvoir corriger ce problème. Donc là, on peut rien conseiller de particulier. Donc les gens qui ont une tendance à avoir un taux de cortisol qui s'élève un petit peu trop dans la journée tout en restant dans la norme, ça c'est encore autre chose. Et là, tout ce qui a tendance à diminuer le stress, ça va être efficace pour faire chuter le cortisol. Donc le fait d'être bien reposé par exemple... Le fait de prendre de la vitamine C, ça fait baisser le cortisol, prendre du magnésium, voilà, tout ce genre de choses, c'est efficace. Mais là, pour la question, il n'y a rien à faire dans un premier temps, en tout cas, il faut voir avec son médecin.
Donc c'est le seul conseil que je donnais à cette personne désarmée face à sa situation.
Eh ouais, mais d'abord, il faut voir ce qu'il y a au niveau médical. On peut pas sortir du chapeau des solutions comme ça. C'est un peu le noir complet. On sait pas vraiment ce qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, faut déjà au moins avoir un diagnostic, de poser éventuellement un traitement, et ensuite voir ce qui est possible de manière complémentaire. Mais là, comme ça, non, c'est pas possible. Donc ensuite, on a une question entraînement pour toi, Rudy. Que faire si on ne progresse pas à un exercice alors qu'il nous correspond anatomiquement?
Donc je crois que l'exemple que tu as donné, je sais plus, c'était le développé couché et puis la personne ne progressait pas. Donc ça me permet déjà de faire un petit point sur l'exercice qui nous correspond anatomiquement, parce que donc comme vous le savez, je reçois énormément de mails et donc de questions, et malheureusement et souvent, les gens ont du mal à s'analyser et pensent qu'ils sont faits pour un exercice alors qu'ils ne sont pas faits pour, et vice versa. Donc le plus courant, bah, c'est je ne suis pas fait pour le développé couché, alors que je vois les photos, la personne est faite, n'est pas particulièrement faite pour, mais n'est pas non plus pas faite pour faire ce mouvement. Donc déjà, c'est le premier point, bien voir ce qui nous correspond ou pas, sachant que la plupart du temps, on n'est jamais dans les extrêmes, donc ça nous correspond toujours au moins un petit peu. Ensuite, imaginons, je reprends l'exemple de la personne qui a des petits bras, une grosse cage, qui passe à large d'épaule, elle fait du couché, elle ne progresse plus. Comme d'habitude, aucun exercice n'est indispensable. Et il me semble qu'on a parlé de l'immunisation il y a quelques podcasts. Donc, il semblerait, si tu ne progresses plus sur l'exercice qui te correspond, que tu dois t'immuniser et donc tu peux changer d'exercice sans souci. En fait, il n'y a vraiment pas de... Pour chaque muscle, il y a au moins 2, 3, voire 4 exos qui conviennent à chacun pour progresser. Il n'y a jamais qu'un seul exercice, donc c'est pas parce que je vois bien la question en fait. C'est pas parce qu'un exercice nous correspond qu'on va tout de suite monter à 200. Forcément, on va pas monter à 200. On va y avoir des périodes où ça progresse pas, où donc il va falloir peut-être changer d'exercice, comme je viens de dire. Et puis ainsi de suite, roulement, etc. La progression va pas être linéaire parce que l'exercice nous correspond anatomiquement.
Un exercice qui nous correspond anatomiquement, tu vas me corriger Rudy, hein, mais c'est surtout un exercice qui va pas nous blesser.
Aussi, oui.
Avant tout. Peut-être ça qu'il faut penser en priorité. Après, la progression, je pense que ça dépend aussi d'autres choses.
Voilà, ce que tu fais bien de souligner, c'est que l'anatomie, c'est bien, mais la progression ne dépend pas que de l'anatomie. Comme là, si je ne progresse plus sur un exercice qui me correspond, ça peut être parce que je récupère mal, parce que je ne dors pas, parce que je mange pas bien, parce que je maigris, parce que je suis grillé nerveusement, etc. Donc il peut y avoir plusieurs causes. Donc mon conseil pour cette personne, c'est de changer d'exercice tout simplement. Donc si je fais du développé couché avec barre, je peux par exemple faire du couché avec haltère ou passer sur de l'incliné bas. Il y a le choix entre tous les exercices qui existent et qui sont présents sur le site en vidéo. Cela répond-il à ta question, Julien ?
Très bien, c'est très bien. Donc, on enchaîne avec une question de diététique. Donc, pour moi, mais tu peux participer, hein, Rudy, nous faire partager ta science. Bonjour, pour enchaîner sur le podcast de la semaine dernière concernant les BCAA, si j'ai bien compris, les protéines sont formées de peptides, les peptides d'acides aminés, donc pourquoi ne pas supprimer les suppléments de protéines et se concentrer sur les BCAA étant donné leur action plus rapide? Alors, je ne sais pas qui a posé cette question, mais à mon avis, dans le dernier podcast, j'avais dû expliquer que j'avais fait un article sur mon site qui expliquait ça. Bon, ceux qui veulent le lire, c'est julienvenesson.fr. Et donc, j'expliquais la différence entre protéines, peptides et acides aminés. Donc, ce qui est dit est globalement juste. Hein, les acides aminés sont des constituants des peptides et les longs peptides sont appelés des protéines. En fait, tout ça, c'est une question de taille. Les protéines, c'est ce qu'il y a de plus grand, les peptides, c'est plus petit, et les acides aminés, c'est la brique essentielle des protéines, on va dire. Donc les BCAA, ce sont des acides aminés, et donc on pourrait penser que effectivement, prendre des acides aminés, comme ils sont plus petits, ils sont absorbés plus rapidement, donc ils sont plus bénéfiques pour la masse musculaire. En fait, non, ce qui fait la rapidité d'absorption, ça n'est pas uniquement la taille de la molécule, c'est aussi une question de capacité à être absorbée au niveau de l'intestin, et en particulier les peptides, donc qui sont de taille intermédiaire entre les acides aminés et les protéines, ils ont la chance d'avoir des transporteurs spécifiques qui fait qu'ils sont absorbés beaucoup plus rapidement que des acides aminés libres, comme ceux des BCAA. Donc se contenter des acides aminés, non, c'est surtout pas la chose à faire. C'est de manière générale, au contraire, le complément alimentaire à éviter.
C'est comment et en plus comment vider son portefeuille très rapidement.
En plus, sauf les BCAA qui font partie des acides aminés, mais qu'on ne prend pas spécialement pour leur vitesse de digestion. On les prend parce que on a un besoin accru au cours de l'exercice de ces acides aminés. Donc on les prend simplement pour combler une sorte d'utilisation, quoi. Mais c'est pas parce qu'ils sont absorbés plus rapidement. Pour ce qui est des vitesses d'absorption, les peptides surpassent les acides aminés et les protéines. Donc chaque chose a un bénéfice selon le moment auquel on le prend. Quand on prend un repas normal en dehors de l'entraînement, on n'a pas d'intérêt particulier à prendre une protéine qui se digère très rapidement. Ça n'a pas de logique. C'est surtout autour de l'entraînement que c'est utile. Donc du coup, les peptides, c'est plutôt autour de l'entraînement. Et pendant les repas, classiquement, bah, ça va être des protéines, ça peut être de la viande, du poisson, des protéines en poudre, ce qu'on veut, mais en tout cas, il n'y a pas besoin de prendre des acides aminés qui en plus coûtent très cher, ni même des peptides qui coûtent cher aussi. Donc je crois que c'est ce qu'on peut dire. Est-ce que Rudy, tu penses que ça répond à la question du jeune homme ?
Ouais, bah, ça répond bien à la question, très clairement. Reste sur les protéines, il ne prend pas d'acides aminés en gélule qui coûtent deux bras et qui servent à rien.
Oui, et puis
c'est marrant parce que c'est un truc que je me pose souvent. Je me pose pas souvent, mais je me dis putain, c'est vraiment bête et dommage. C'est que les fabricants de protéines fabriquent encore des acides aminés en gélules sans arrêt. Ouais. Ouais. Et ça coûte deux bras. Franchement, ça coûte deux bras et c'est comme de la prod quoi. Et je vois plein de gens qui m'écrivent et qui me disent oui, comment prendre les acides aminés?
Bah ouais.
Alors que justement, bah faut pas en acheter.
Bah ouais, mais c'est une...
Alors que les vendeurs, ils arrivent à vendre ça, là, c'est un truc un peu qui m'énerve aussi.
C'est du marketing, hein. Mais cultivez-vous pour savoir à quoi sert chaque chose, et puis vous saurez quoi acheter.
J'ai une anecdote, allez. Dans une des premières salles de muscu où je coachais individuellement, il y avait un mec, il prenait ses acides aminés avec sa protéine, et il me disait, les acides aminés, oui, c'est pour fixer la protéine. Mec, je disais, non, mais hey, rigole, hey, je suis sûr qu'il y en a qui vont nous écouter, qui vont, ça va leur faire du bien parce que c'est un rappel, et c'est vrai que c'est une connerie qui est souvent répandue. Et il me disait ça, et le mec, je disais, non, mais tu sais que les protéines, c'est une chaîne d'acides aminés. Ah non, là, c'est pour fixer la protéine, c'est obligatoire et tout. Et le mec, j'avais beau lui expliquer, non, c'est pas vrai, faut pas que tu prennes, c'est perdre d'argent, là, ça sert à rien. Et ben, le mec, il continuait.
Bah oui. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de vendeurs, pas tous, hein, mais bon, il y en a beaucoup quand même de vendeurs qui n'y connaissent rien et qui font simplement, qui ne répètent que le marketing qu'on leur a eux-mêmes appris et qui vient des fabricants. Hein, donc, même dans les boutiques spécialisées, il n'y a pas forcément affaire à quelqu'un de compétent. Il y en a, mais c'est pas le cas de tout le monde.
Ça permet de rappeler un petit truc sur Superphysique. Justement, toutes les fiches suppléments sont écrites par mes soins. Donc, ne suivez pas les recommandations qui sont marquées sur les pots que vous achetez. Souvent c'est du bidon, donc c'est pourquoi sur Superphysique j'ai écrit toutes les fiches directement pour savoir comment les prendre et puis pas se faire avoir.
On peut d'ailleurs expliquer qu'est-ce que veulent dire ces recommandations qu'il y a écrites sur les pots, sur les fiches. Elles sont fixées soit d'une part par le vendeur qui a évidemment un intérêt à ce que le pot se vide plus rapidement pour pouvoir espérer que vous en rachetiez ensuite plus. Donc il y a d'une part ces recommandations-là qui sont pas forcément toujours les meilleures, et d'autre part il y a aussi parfois des recommandations qui sont imposées par la législation française, donc, par exemple pour la créatine ou pour d'autres compléments, et qui sont peut-être pas non plus, en tout cas sont pas du même avis que les chercheurs ou que d'autres experts indépendants quoi. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir une distinction entre des conseils que vous pouvez trouver sur internet ou de la bouche d'experts, quels qu'ils soient, et ceux des vendeurs, de la législation et des boîtes. Donc voilà.
Bon bah je crois qu'on a bien fait le tour de la question ce coup-ci.
Eh ben j'espère, enfin c'est le genre de question que les gens qui ont lu Nutrition de la Force ne posent pas, parce que tout est écrit dedans, sur ce genre de truc, c'est la base. La base des suppléments qu'il faut connaître, je pense. Faut pas se faire avoir. Donc ensuite, on a une question, Rudy, pour toi. Que penser du 10x3 pour l'hypertrophie?
Donc, voilà.
10 séries de 3 répétitions.
10 séries de 3 répétitions. Et donc, l'hypertrophie, bah, tout simplement, c'est la prise de muscle. Hein. C'est un terme un peu barbare réservé aux spécialistes, entre guillemets, pour bien nous embrouiller. Donc en gros, bah oui, non mais... Souvent, on utilise des mots, les gens utilisent des mots vachement compliqués pour faire croire qu'ils connaissent, alors que c'est du bidon. Donc c'est la prise de muscle. Donc le 10x3, c'est 10 séries de 3. En général, ça se fait avec son... entre son 6 et son 8 RM. Donc en gros, sur une série, on en fait entre 6 et 8 à fond. Donc j'avais donné l'exemple il y a quelques années, je sais plus dans... Je crois, non, même pas, ça fait moins d'un an, j'avais écrit l'article Muscle et Force, où j'expliquais justement les différences entre l'entraînement pour la force et l'entraînement pour le muscle, pour prendre du muscle. Et le 10x3, justement, fait partie de ces techniques plus pour progresser en force. Donc ça a été mis... Julien, attention à ton clavier. T'as vu cette oreille? Ça, c'est des pouvoirs.
C'est vraiment impressionnant.
Donc le 10x3, ça a été remis un peu à la mode par les auteurs... Par les auteurs tels que Chad Waterbury, Thibaudot, donc tous les auteurs nord-américains.
Canadiens, ouais.
Voilà, donc pour progresser, donc à l'époque aussi, ceux qui sont un peu anciens sur le forum, c'est un peu ce que nous faisait faire un certain Force Athlé sur le forum qui nous entraînait au développé couché. Donc on faisait 10x5, 10x4, 10x3. Donc en fait, on va progresser en faisant du 10x3 si on le cycle bien. Donc sur les charges, forcément, on va progresser. Mais on va prendre moins de muscles que si on progressait sur du 3x10. Alors qu'on arrive au même nombre de répétitions. Donc en fait, ça montre bien que le temps sous tension, c'est-à-dire le temps que dure la série, que le muscle travaille, est important pour déterminer ce qu'on va travailler en priorité.
Si le temps sous tension... Dis-moi. Ça rejoint une discussion qu'on a eue dans un des derniers podcasts où on parlait de ce que c'était de pourquoi est-ce que les courbatures, du lien entre courbature et croissance musculaire, et on avait expliqué que ce qui faisait la croissance musculaire, c'était la contrainte mécanique multipliée par un facteur temps. Donc c'est ça, c'est le temps qu'on reste sous une contrainte, c'est un petit peu ce que t'es en train de dire.
Putain, en fait, je dis des trucs vachement intelligents.
Non, c'est juste pour expliquer à nos auditeurs que tout se rejoint, quoi. Il y a une certaine logique, voilà, une fois qu'on a compris un peu le schéma du truc, c'est comme quand tu parles de faire des séries longues. Quelqu'un qui arrive à faire une série de 20 répétitions à 100 kg développé couché, il va avoir plus de masse musculaire que celui qui en fait une série de 10 à 100. Hein. Ouais. Parce que simplement, là, il est soumis à la même charge, mais pendant plus longtemps au niveau musculaire.
Voilà, donc après, donc je reprends mon explication. Donc le temps sous tension va favoriser en fait ce qu'on va travailler en priorité. Donc si le temps est faible, on va plus travailler la force. Donc forcément, si je gagne 20 kg sur mon 10x3, donc en étant optimiste, très optimiste, je vais prendre un peu de muscle. Mais si je gagne par exemple, donc j'en ai un exemple, hein, sur mon 3x10, je gagne que 10 kg, bah, je vais prendre plus de muscle que sur mon 10x3, alors que j'ai progressé plus en charge. Donc après, ça revient à la question, il y a deux questions qui se posent par rapport au temps sous tension. C'est un, est-ce qu'il faut chronométrer ces séries et donc adopter un tempo un peu lent pour avoir un temps sous tension plus élevé? Donc ça, j'ai déjà pas mal répondu, la réponse est non. Il ne faut pas ralentir ces exercices, exagérément, sauf sur un point faible, sur un exercice d'isolation, donc pour apprendre à contracter son muscle. Mais la plupart du temps, mieux vaut faire ces mouvements à vitesse normale, voire en accélérant. Moi, je préfère accélérer, mais après, ça dépend de chacun et de son caractère. Et donc, mieux vaut pousser le plus rapidement possible, tout en contrôlant sa négative, histoire que le mouvement ressemble quand même à quelque chose et que ce soit pas n'importe quoi. Donc pas besoin de ralentir ces séries. Et la deuxième question qui se pose, voilà, c'est quel est le meilleur compromis charge temps sous tension. Donc on arrive toujours à ce que je répète dans les articles et dans mes e-books, donc un compromis entre 8 et 20 répétitions. Donc c'est là qu'on est environ dans le meilleur compromis niveau charge temps sous tension pour obtenir le maximum de résultats en termes de prise de muscle. Donc voilà, donc le 10x3 ça peut être sympa pour casser la routine, pour prendre un peu de force, etc. Mais musculairement, ça va pas aller très très loin, vu que le temps sous tension est beaucoup trop faible.
Ok.
Même si on fait un tonnage qui est plus élevé, ça va pas. La musculation n'est pas qu'une histoire de chiffres.
Et le tonnage, pour expliquer à ceux qui connaissent pas, c'est la charge totale soulevée au cours de la séance. Donc, si on a pris 100 kilos. En 10 x 3, ça fait 30 x 100 kg.
Vous avez combien, Julien?
Bah, alors Rudy fait le calcul.
Ah, il sait pas, merde, je voulais le plus. Ça fait 3 tonnes, Julien.
Ah, merci Rudy.
T'aurais dû demander à Akuma.
Il est parti dormir.
Mais c'est pour ça. Donc voilà, donc le tonnage n'est pas seulement un truc à prendre en compte.
Ok. Question suivante.
C'est la dernière question du podcast, donc Julien, elle est pour toi.
Attends, Rudy, c'est quand même une question spéciale qui a été posée à notre expert en sexologie, c'est-à-dire toi. Est-ce que faire l'amour avant une séance peut influencer sur les performances? Donc fais-nous part de ton expérience, Rudy.
Il disait parce que j'ai appuyé juste avant le podcast et il racontait n'importe quoi. Il est pourri jusqu'à là, ce type.
Alors Rudy, quelle est ta réponse? Est-ce que faire l'amour...
Tu rigoles, mais mes élèves m'ont posé ça en privé et je lui ai dit, mets-la pour le podcast, on va bien rigoler.
D'accord.
Tous ceux qui s'entraînent dur et qui ont déjà fait cette expérience savent très bien que faire l'amour avant sa séance influe négativement sur les performances.
Disons que je connais assez peu de gens qui, après avoir fait l'amour, se sentent l'envie d'aller piquer un sprint ou d'aller grimper l'Himalaya, quoi. Donc forcément, on n'est peut-être pas dans les meilleures dispositions pour aller faire des performances physiques.
Donc Julien, tu avais un test à préconiser pour justement vérifier cette...
Ah là là, notre sexologue est vraiment pourri aujourd'hui.
Non mais sans rire, pour revenir sur la question, si après on n'a pas envie, c'est sûr que ça vide de son énergie, quoi. On a moins de tests, c'est comme si on était moins... On est moins nerveux, quoi, comme vous savez bien. On est moins nerveux, et puis tout de suite, on a moins de niaque, et puis... Donc c'est une règle d'or. Jamais avant l'entraînement.
Et alors, c'est pas qu'une impression, hein. Au niveau des hormones, après un soulagement masculin, on a une poussée de prolactine, qui est une hormone qui un peu s'oppose, à la testostérone. Donc, on va pas tirer parti de l'entraînement au niveau hormonal, on va être moins, c'est pas bon quoi. Donc dans tous les cas, il faut se reposer, il faut écouter son corps, hein. Comme on dit souvent, savoir écouter son corps
après l'effort, le réconfort. Donc dans le sens inverse.
Voilà. Donc reposez-vous et.
Phrase du tonnerre pour conclure cette question.
Ouais.
Et on a oublié la dernière question. Comment va Akuma cette semaine?
Akuma, ça va, ça va bien. La journée, c'est la routine, 23 heures de sieste par jour et ça va.
Il mange souvent ses croquettes, je sais pas d'où.
Oui, alors il a perdu un petit peu de poids. Je trouve qu'il est plus svelte là. Il est un peu, tu vois, plus féroce. D'ailleurs, j'ai mis des photos de lui dernièrement sur Facebook, très féroce, comme ont pu constater les fans. Voilà. Bon écoute Rudy, on te remercie pour ta participation. On va réfléchir avec l'équipe pour te faire revenir peut-être la semaine prochaine. On va voir.
Ce sera peut-être en direct de République Tchèque.
Ah.
Donc peut-être que certains seront motivés dans l'équipe de France pour venir participer. On sait jamais.
Ce serait sympa. Puis tu pourrais aussi interviewer des Tchèques.
Ah, il est con celui-là, putain. tu rigoles, mais les Tchèques, je vois pour quand tu réserves les trucs et tout, tu comprends rien, hein, t'arrives même pas à prononcer leur nom de rue, quoi. Donc, on n'en est pas encore à les interviewer.
Bah, tu nous raconteras des anecdotes comme ça.
Bah voilà.
Ok, merci Rudy, et merci à tous, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.